Et maintenant,
quel accueil ? Hier, nous avons parlé de la distinction entre église attirante et église accueillante. Aujourd'hui, ce matin, nous allons aborder une question importante pour tout ce qui concerne l'accueil. Quelles sont ses limites ? On parlera surtout d'accueil, mais une des choses qui m'ont été précieuse au fil des années, c'est de me rendre compte que nous n'avons pas, l'accueil ne veut pas dire approbation. L'accueil ne veut pas dire que nous devons à tout prix nous ouvrir à tout ce qu'une autre personne pourrait nous dire ou nous apporter. Lorsque je commençais dans le travail auprès des malades du sida, on m'a invité à un congrès d'intervenants chrétiens internationaux autour de cette question. C'était très intéressant parce que les organisateurs avaient invité des gens proportionnellement à l'épidémie dans le monde. Donc c'était un congrès où il y avait une forte majorité de personnes issues des pays où le sida était de loin le plus prévalent. Et dans ce congrès, nous avons eu un intervenant qui était un pasteur d'une église à San Francisco. Alors si vous connaissez un peu l'histoire, l'historique du sida, c'est à San Francisco, que dans la communauté homosexuelle à San Francisco, qu'on a commencé à voir un peu plus, à comprendre qu'il y avait là quelque chose qui touchait, une maladie qui touchait particulièrement la communauté homosexuelle. Et San Francisco étant une ville qui, historiquement, était toujours très tolérante et ouverte à l'égard de l'homosexualité. Et ce pasteur, dans ce congrès, nous a raconté qu'il avait commencé il avait lancé l'idée dans son église, qui est une grande église avec beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, ressources humaines aussi, que ce serait une bonne idée de lancer une œuvre d'accompagnement, de diaconat, d'aumônerie peut-être, auprès des personnes qui, à l'époque, mouraient du sida. C'était avant les trithérapies, avant les traitements, on ne savait pas comment le traiter, beaucoup, beaucoup de gens mouraient du sida. Et un des membres du conseil de l'église lui a dit quelque chose du genre, alors je ne le cite pas textuellement, ça date d'il y a longtemps et c'était en anglais, mais un des membres du conseil lui a dit quelque chose du genre, mais monsieur le pasteur, vous n'y pensez pas, on va ouvrir l'église, si on fait ce que vous nous suggérez, nous allons ouvrir l'église aux homosexuels, l'église va être remplie d'homosexuels si on fait comme ça. Le pasteur a répondu, eh bien, quand ils viendront prendre place sur les bancs entre les menteurs, les fiers, les orgueilleux et les médisants que nous sommes tous. Et j'ai bien aimé cette idée d'une église qui sait accueillir parce qu'elle sait que nous sommes tous des pécheurs pardonnés, mais qui ne va pas non plus approuver le choix et l'orientation des personnes. La distinction entre ce que j'ai appelé accueillir, accepter et approuver. Je vais passer l'essentiel de mon intervention et puis je vous inviterai, comme hier, à poser des questions et à faire part de vos remarques. Mais nous allons passer l'essentiel de cette intervention à réfléchir à l'accueil. Mais un accueil sain nécessite de savoir où est la frontière, jusqu'où peut-on aller, quelles sont les limites acceptables. Il me semble que l'on fait souvent la confusion. Je pense à tous les parents, et ça m'arrive encore aujourd'hui, à peu près une fois par mois, j'ai un appel téléphonique d'un pasteur ou de chrétien quelque part en France qui me demande de réfléchir avec eux ou de leur parler du coming out de leur enfant. C'est quelque chose qui se passe de plus en plus. Les personnes, les adolescents, les adolescentes qui se posent des questions, est-ce que je suis vraiment né ? Enfin, je suis né garçon, mais je me sens plutôt fille, ou vice-versa. C'est une question qui est de plus en plus présente dans les médias, de plus en plus présente dans les milieux, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et donc, ça arrive très très souvent que des parents m'appellent en disant, voilà, mon fils, ma fille vient de me dire qu'ils sont homosexuels, qu'il est homosexuel, qu'elle est homosexuelle. Comment je dois réagir ? C'est encore mon enfant. Parfois, il y a un problème de couple. Parfois, c'est la maman qui m'appelle parce que le papa refuse même de parler à l'enfant ou vice-versa, ça arrive aussi. C'est très très compliqué et je m'engage toujours dans cette réflexion avec eux sur où se situe la limite. On me demandait souvent, lorsque j'intervenais auprès des malades du sida, comment un chrétien ou une église doit réagir devant l'homosexualité ou le transsexualisme. Et certains de mes interlocuteurs utilisaient parfois des termes assez violents, du genre abomination ou déviance. Parfois, le langage était plus atténué, et il m'arrivait de percevoir dans la question de la personne une vraie détresse, qui ne pouvait pas se satisfaire de « ah ben, y a qu'à », où la Bible dit que, bon, voilà. Parfois, il y avait souvent quelqu'un, souvent un homme, qui se levait, qui disait « oui, mais la Bible nous donne nous avons une vocation prophétique de proclamer la condamnation de Dieu à l'égard de toutes les déviances qui sont en train de déferler sur notre société ». Alors ma réponse, c'était, ben, voilà, est-ce qu'on peut réfléchir à où se situeraient les limites? La Bible enseigne que l'accueil est un devoir chrétien, individuel et communautaire. Nous devons y réfléchir dans selon ces deux axes. Mais l'accueil est un devoir dans un premier temps. Il n'est pas inconditionnel. Certains comportements ou certaines situations rendent l'accueil impossible. Mais je dirais que la grâce chrétienne, celle dont nous avons déjà nous-mêmes bénéficié aux yeux de Dieu, considère l'autre comme digne d'être accueilli jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça que j'aimerais formuler la chose. L'accueil concerne le premier contact. C'est le propos de notre réflexion ce week-end, le premier contact. La relation n'a pas encore trouvé ses repères et tous les espoirs sont permis, tout est possible. L'accueil n'implique pas forcément une invitation dans un cercle intime. Je me souviens dans les premiers temps de l'association que nous avons fondée d'accompagnement des malades du sida. Il y avait des personnes, en fait je me souviens particulièrement de deux dames qui étaient toutes deux femmes de responsables dans une église locale et qui avaient une culture évangélique de l'accueil et de l'hospitalité qui était très développée. J'ai grandi dans une de ces familles, genre à table le dimanche, nous avons quasiment toujours des invités et très souvent d'autres jours de la semaine aussi. Ça faisait partie de ce que ma mère considérait comme sa vocation chrétienne. Et c'était le cas de ces dames. Et pour elles, c'était normal qu'une personne qui posait des questions sur la foi, qui était un peu intéressée par la foi chrétienne, voire même qui venait à l'église, eh bien, l'étape normale, presque inéluctable, c'était de les inviter à table, dans la famille. Et elles hésitaient à le faire, parce que certaines des personnes que nous étions en train d'accompagner étaient difficilement intégrables dans une vie de famille classique, on va dire. Je pense particulièrement à quelqu'un que, avec mon épouse, nous avons accompagné, qui s'appelait Sandra, enfin que j'appelle Sandra dans certains de mes écrits. Et il y a une Sandra, pardon.
C'est moi.
Alors, cette Sandra-là, c'était quelqu'un qui était né en Amérique du Sud, qui s'appelait José en Amérique du Sud, et donc né garçon, a grandi, perdu sa mère à l'âge de 9 ans, et à l'âge de 13 ans, s'habillait déjà en femme, en fille, dans les photos de famille. Donc il y avait quelque chose de profondément malsain entre lui et son père, et donc lui est devenu elle, a subi des opérations pour devenir une femme. Alors, à l'époque, en Amérique du Sud, dans son pays d'origine, ce genre de personne, c'était un crime, donc passible de prison. Donc, pour échapper à la prison, donc Sandra est venue s'installer en France. Et elle a vécu à Paris, en région parisienne. Alors, pour une personne transsexuelle opérée, en plus, qui prenait ses hormones plus ou moins bien, il n'y avait que deux moyens de subsistance, c'est elle qui m'a décrit la chose de cette manière-là, soit la prostitution, soit le showbiz, les travestis, les shows travestis en boîte de nuit, ce genre de choses. Et donc elle avait vécu de prostitution et de petits deals de drogue, elle était toxicomane, Et donc, un jour, elle a dû quitter la région parisienne pour se réfugier dans ma petite ville de Cavaillon, en Provence, pour échapper à des dealers à qui elle devait beaucoup d'argent à cause de sa toxicomanie. Et moi, je l'ai connue, nous, on l'a connue à l'association parce qu'elle habitait notre ville. Et donc, l'hôpital, le service d'hématologie, où elle était soignée pour le sida, pour, en fait, toutes les maladies que l'on peut attraper par voie sexuelle et par voie intraveineuse, elle les avait. En plus, elle avait déjà une fragilité du cœur. Et finalement, c'est la combinaison de tout cela qui l'a tuée. Et j'ai pu procéder à ses obsèques, à sa cérémonie d'obsèques, remplie de personnes qui la connaissaient en tant que femme. Et donc, c'était formidable. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous la raconterai peut-être tout à l'heure. Ce n'est pas mon propos. Sandra était quelqu'un qui, par sa maladie, par son attitude, par exemple, elle ne savait pas, elle n'avait aucune possibilité de relations humaines à part le registre de la séduction. Elle avait un profond problème psychologique à ce propos, mais elle était tout dans le toucher. Moi, elle m'appelait mon poussin. C'était vraiment, tout était dans l'accompagnement, était sur le registre de la séduction. Elle se faisait virer chaque fois qu'elle allait dans des cours d'alphabétisation, par exemple, ou de réintégration au milieu professionnel. Elle était exclue du cours après une semaine ou deux parce qu'elle ne savait pas avoir un rapport humain qui n'était pas sur le registre de la séduction. Heureusement, avec mon épouse et moi-même, nous l'avons suivi ensemble. C'était le genre de personnage que c'était très difficile de ne pas suivre ensemble. Mais nous avons fait le choix de ne pas l'intégrer à notre vie de famille. Nous avions deux garçons à l'époque, petits. Maintenant, ils sont grands. C'est pour ça que je dis « avions » dans le passé. ils avaient peut-être 5 ans, 8 ans quand nous avons connu Sandra. Et donc, nous avons fait le choix de ne pas l'intégrer dans notre vie de famille. Et ce genre de décision ne nous a pas empêché de l'aimer, de l'accompagner, d'être auprès d'elle quand elle en avait besoin. Et puis, le jour où elle est décédée, d'accompagner ses amis, ses proches, y compris son compagnon, dans leur deuil et de procéder à ses obsèques. Mais voilà, j'ai donné cet exemple comme un exemple d'une limite où nous y avons réfléchi avec mon épouse, bien sûr, nous avons beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre vie de famille? On a fait le choix de ne pas le faire parce que son comportement, sa conjugalité, sa sexualité étaient incompatibles avec l'exemple que nous voulions donner à nos fils d'une conjugalité saine. L'accueil n'implique donc pas forcément une invitation dans mon cercle intime, pas même une invitation dans mon foyer, mais il nécessite l'accueil, un sourire, une parole qui ouvre à la relation. L'accueil permet à mon interlocuteur de revenir, la seconde tasse de café, de revenir pour poursuivre la relation et l'approfondir s'il le désire. Alors, où se situe la frontière entre accueil et l'étape suivante que j'ai appelée l'acceptation? Et ce n'est pas facile à définir. Lorsque le temps passe et que la relation dure, le moment arrive où les liens dépassent le stade de l'accueil. Accepter quelqu'un implique que je suis prêt à cheminer un temps à ses côtés, sans chercher forcément à développer nos rapports au-delà du domaine commun qui nous a rapprochés à l'origine. Ça peut être un service de diaconat de l'Église auprès, par exemple, des personnes sans abri. Quelqu'un se met à revenir souvent à un accueil pour personnes à la rue, l'Église commence à les connaître un petit peu, la personne commence à assister au culte, manifeste un intérêt pour l'Évangile et pour la foi. C'est plus que de l'accueil. Maintenant, on est sur un petit bout de chemin ensemble. Ça peut être beaucoup plus profond. Je pense que c'est ce qui est nécessaire lorsque, par exemple, un couple chrétien découvre que leur enfant est homosexuel. Évidemment, on ne va pas parler simplement d'accueil. On ne va pas non plus parler d'approbation. Il y a quelque chose entre les deux. La plupart du temps, l'enfant en question sait que ses parents n'approuvent pas ses choix de vie. Peut-être que lors de son coming out, il faudra qu'il y ait une discussion profonde sur qu'est-ce que ça implique que tu sois homosexuel. Mais il reste ou elle reste enfant leur enfant. Et ils vont continuer, je l'espère, et c'est ainsi que moi je comprends le devoir chrétien d'amour, ils vont continuer à l'aimer. Ça reste leur enfant. Tout comme Dieu continue à nous aimer, même lorsque nous nous éloignons de lui et que nous faisons des choix qui lui sont contraires. Accepter quelqu'un, je l'ai dit, donc implique que je suis prêt à cheminer un temps à ses côtés. Dans le service de Dieu, de nombreuses relations appartiennent au domaine de l'acceptation. Lorsqu'une œuvre de diaconie agit en faveur des personnes défavorisées, elle cherche à instaurer autre chose que simplement l'accueil et veut tisser des liens profonds et durables. Parfois, il y a des gens qui viennent dans nos églises suite à la conversion d'un conjoint, par exemple. Ou lorsque les parents maintiennent de bonnes relations avec leurs enfants qui ont fait des choix de vie radicalement opposés à la foi chrétienne, à la foi de leur enfance. C'est plus que de l'accueil, ce n'est pas encore de l'approbation. C'est de l'accompagnement. Alors, vous pouvez, c'est de l'accompagnement ou de l'acceptation. Ce terme est un petit peu souple. Certains m'ont dit, oui, mais l'acceptation, ça ne convient pas, c'est plutôt un accompagnement. Oui, mais je veux dire, moi j'ai un enfant qui ne suit pas le Seigneur. Ben, ce n'est pas un accompagnement, c'est une acceptation. Il reste mon enfant, je l'aime, je construis une relation avec sa copine, j'essaye d'être le père que je devrais, qui me semble que je devrais être. Ce n'est pas un accompagnement, c'est une acceptation. Parce que je l'aime, je reste vulnérable. L'amour implique la vulnérabilité. Je reste vulnérable, c'est-à-dire je l'aime, donc quand il fait des choix, ça peut me blesser, ça peut m'affecter. C'est ça la vulnérabilité de l'amour. Quand on accompagne simplement une situation sociale difficile, bon, si la personne choisit de s'éloigner, de partir ou nous rejette, voilà, on va pas en faire un plat, on va être triste, c'est triste pour eux. Mais ça ne nous affecte pas de la même manière que lorsque c'est quelqu'un que nous aimons vraiment. Donc il y a toutes sortes de domaines, de niveaux dans cette relation intermédiaire. De telles situations peuvent donner naissance à des relations profondes, de réelles amitiés, des relations où l'autre est accepté, mais ces relations ne signifient pas une approbation des choix de la personne, des choix de vie et des choix spirituels. L'approbation va plus loin que l'acceptation. L'approbation signifie que l'approbation implique une certaine identification à la personne dans le domaine moral. L'approbation, telle que je la définis, c'est simplement dans sa situation, je ferai la même chose. Ça ne veut pas dire j'approuve tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait. Non, c'est pas ça. C'est simplement que dans ce domaine, sur cette question, si j'étais à sa place, je ferais les mêmes choix, je prendrais les mêmes décisions. L'approbation n'implique pas un accord aveugle avec tous les choix et toutes les décisions de l'autre. Lorsque je suis devenu membre de mon église locale, j'ai lu les statuts officiels de l'association, j'ai lu la confession de foi, et j'ai signifié publiquement mon adhésion à ce que je venais de lire. J'approuve les objectifs de cette communauté de chrétiens. Mes relations avec le pasteur, avec le conseil d'administration et les autres chrétiens sont construites sur une approbation réciproque. Eux approuvent ma doctrine, mes choix, j'approuve les leurs, dans ce domaine qui nous unit, de la vie d'église locale. Ça nous permet parfois, cette approbation, d'exprimer des désaccords. Je ne vais pas forcément être d'accord avec les autres chrétiens de mon église locale, surtout. Mais ça implique que nous avons une base commune qui nous permet de collaborer ensemble au sein de la même église. Comme les autres membres, je dispose toujours de mon libre arbitre. Cette distinction entre accueil, acceptation et approbation nous libère pour une mise en pratique de l'accueil, de la grâce, car elles nous permettent de placer des limites saines dans nos relations. En tant que responsable de l'équipe de chrétiens qui accompagnait les malades du sida, je devais rassurer ces dames qui culpabilisaient de ne pas pouvoir inviter les usagers de l'association dans leur cadre familial. Il est vrai que à titre individuel, la relation bénévole-usager s'épanouit souvent en une réelle amitié. Et par exemple, certains des personnes que nous étions en train d'accompagner sont devenus des amis. Mes enfants, même petits, mes garçons, même petits, ont grandi connaissant un couple d'amis homosexuels qui étaient devenus de vrais amis. Et c'était intéressant parce que ça nous a permis de parler avec nos enfants dès leur plus jeune âge, bien avant même que la question se pose à l'école. Qu'est-ce que c'était qu'une conjugalité appropriée, qu'une conjugalité saine? Qu'est-ce que nous voulions pour eux en tant que parents et qu'est-ce que Dieu voulait pour eux en tant que créateur? Notre idéal de l'accueil et de l'hospitalité chrétienne risquerait de nous pousser à un dévouement qui peut parfois être nuisible. J'ai récemment préparé un jeune couple au mariage dans mon église, l'église où je suis récemment devenu pasteur au Mans. Et ce jeune couple, un couple malgache, et nous avons dans le cadre de la préparation au mariage évoqué les pièges qui peuvent guetter le couple chrétien. Et de manière un peu provocante, je leur ai dit un des pièges qui risquerait d'endommager votre relation, c'est l'église, c'est votre engagement dans l'église locale. Me regarde avec grand yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, ben voilà, très souvent, l'église locale peut devenir une sorte de gage de saine spiritualité ou d'engagement chrétien. Et peut tellement nous prendre, nous accaparer. J'ai tellement connu de chrétiens qui ont mal vécu ce côté-là des choses. Peut tellement nous accaparer que les relations d'église passent avant les relations familiales, y compris parfois avant les relations de couple. Je me souviens toujours d'une église où j'ai été quand j'étais adolescent, où la fille du pasteur, lors d'un week-end d'église, un peu comme celui-ci d'ailleurs, a dit quelque chose du genre « Ouais, mais de toute façon, en grandissant, papa, maman, ils avaient toujours les bras ouverts pour tout le monde, comme ça, et nous, les enfants, on était derrière. » Je dis « C'est triste. » C'est triste lorsque, vous savez, Jésus, il a dit à ses disciples de propager l'évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Je dis toujours que nos proches, nos conjoints et enfants, en premier lieu, c'est notre Jérusalem. Ce sont les premières personnes que nous devons évangéliser, avec qui nous allons vivre notre foi chrétienne, avec qui nous allons partager l'évangile au quotidien. Après vient la Judée, Jérusalem, Judée, Samarie. Après, le cercle s'agrandit vers le reste. Commençons par ceux qui nous sont les plus proches. Et notre idéal risque parfois de nous pousser à un dévouement qui, à la longue, deviendrait néfaste à notre équilibre personnel et familial. J'ai connu de nombreuses familles dont le sacrifice en temps et en énergie privait leurs enfants ou leurs conjoints de leur compagnie et du soutien nécessaire à un épanouissement sain. L'épuisement émotionnel dans le service de Dieu n'est pas un signe d'un engagement chrétien admirable. C'est plutôt le signe de difficulté dans la gestion du temps, tout simplement. Il peut aussi être le résultat d'un esclavage à une sorte d'idéal évangélique du service chrétien ou, pour rejoindre le thème de notre week-end, d'idéal chrétien de l'accueil, qui n'a rien de spirituel, mais qui relève peut-être plutôt de nos sentiments de culpabilité non résolus. Nous sommes encore, bien que chrétiens sauvés par grâce, nous nous sentons tellement redevables à Dieu que parfois nous vivons encore dans une sorte de légalisme de l'accueil. Comme d'autres chrétiens de l'équipe de soutien des malades du sida, mon épouse et moi, nous avions accueilli Sandra telle qu'elle était. Nous l'avions acceptée comme une amie au-delà de sa pathologie et de ses problèmes. Mais voilà, nous ne voulions pas exposer nos enfants à ses choix de vie et à son orientation sexuelle. Et donc, Sandra n'est jamais entrée dans notre cercle familial. Dans un domaine très différent, des responsables d'église peuvent décider de côtoyer des responsables d'autres communautés chrétiennes, religieuses, on va dire, de manière informelle ou dans le cadre, par exemple, d'un groupe œcuménique, sans que cela implique une approbation de leur position doctrinale. Généralement, de toute façon, nos contemporains, notamment dans le domaine de l'homosexualité ou de l'orientation sexuelle, on va dire de manière plus générale, mais dans toutes sortes de domaines, généralement, nos contemporains n'ont que faire de notre approbation, de notre désapprobation. Ça ne les intéresse pas outre mesure. Parfois, je rencontre des chrétiens qui espèrent à tout prix influencer la société en proclamant la condamnation de Dieu à l'égard du péché. Et certains étaient inquiets. Moi, j'avais souvent des chrétiens qui me mettaient au défi de justifier les formations pour aider des chrétiens à soutenir des personnes homosexuelles, des personnes, des malades du sida. Ils voyaient dans ce service une sorte d'approbation de la promiscuité sexuelle ou de la toxicomanie. Mais c'est vrai que la plupart des gens que nous étions en train d'accompagner n'étaient pas impressionnés par notre approbation ou par notre condamnation, dans un sens ou dans l'autre, ça ne les intéressait pas. Ce que nous pouvions dire de leur choix ou de leur comportement, même au nom de Dieu, ne les préoccupait pas outre mesure, tant que le Saint-Esprit n'avait pas commencé à faire un travail dans leur vie. Quand ils commençaient à revenir vers nous en disant « Oui, mais qu'est-ce que Dieu pense de l'homosexualité ?» Là, nous avions une porte ouverte. Et c'est vrai que nous avions le principe déontologique de ne jamais... ne jamais parler de ces questions-là tant qu'on ne nous posait pas des questions. Nous avions dans notre charte de déontologie le non-jugement, la confidentialité et l'interdiction de tout prosélytisme, c'est-à-dire l'interdiction de parler de notre foi tant qu'on ne nous posait pas la question. Mais je vais vous dire quelque chose. De toutes les années que nous avons accompagné ces malades du sida, ou ces personnes touchées par le sida, parce que comme j'ai dit hier, il y avait des proches, il y avait des membres de la famille, etc. De toutes les personnes que nous avons accompagnées, pendant un certain temps, on va dire, pas une seule n'a pas un jour posé la question, cette histoire de religion dans ce que vous faites, c'est quoi? Tous nous ont posé la question. Mais comme ça venait d'eux, ça nous a donné l'occasion de partager l'évangile d'une manière tellement plus profonde et réel, que si nous avions, dès le départ, parlé du fait que oui, d'accord, on vous accompagne, mais vous savez que Dieu n'approuve pas vos choix de vie. L'accueil, l'acceptation nécessitait une façon différente de faire les choses. Ce que nous pouvons penser des rapports sexuels avant le mariage ne change rien à ce que la jeune génération va décider de faire lorsqu'ils seront amoureux. Par contre, nos actes les intéressent. Il y a quelque temps, j'ai passé quelques années à accompagner dans une école privée catholique, une grande école à Avignon. Il y avait un programme de réflexion éthique autour, et justement, il y avait 2 heures de réflexion sur le sida, soit en seconde, soit en première. Alors, tous les élèves de seconde ou de première, une fois en 2 ans, avaient passé 2 heures de ce cours à réfléchir au sida. Donc il y avait une infirmière qui était une religieuse, qui faisait ça avec un prêtre, mais bon, un prêtre et une religieuse, les jeunes s'amusaient à utiliser le langage le plus cru, à leur poser des questions sur le fonctionnement des parties sexuelles du corps, etc., exprès pour mettre ce prêtre et cette religieuse mal à l'aise. Alors, comme je connaissais bien cette religieuse dans un autre cadre et qu'elle savait que j'étais pasteur, que j'avais 2 fils, elle m'a dit tu voudrais pas venir avec nous ? Et alors, pendant quelques années, j'ai participé à cet accompagnement. Alors là, il y a eu une levée de bouclier des parents. Et le discours des parents m'a été présenté de la manière suivante. On a mis nos enfants dans cette école justement pour leur éviter... le discours de la société sur la promiscuité sexuelle, sur la liberté sexuelle, la liberté des mœurs et tout ça. Et voilà que vous invitez un pasteur qui n'est même pas catholique à venir leur parler de sexualité, parler de sida et évidemment de sexualité. Et donc, ils m'ont demandé, est-ce que tu accepterais de venir en début d'année rencontrer les parents lorsqu'on va faire une réunion où les parents peuvent te poser toutes les questions. C'est ce que j'ai fait. Et donc j'étais là, il y avait le prêtre, il y avait la religieuse qui étaient des amis, et puis il y avait moi, et puis les parents nous ont bombardé de questions sur qu'est-ce qu'on allait dire à leurs jeunes. Et à un moment, j'ai simplement dit quelque chose du genre, de toute façon, ce n'est pas 2 heures. Une fois, en 2 ans, qui va changer grand-chose dans les choix de vos enfants dans le domaine de la sexualité. Par contre, l'exemple que vous leur donnez de la conjugalité dans vos couples, ça, ça va les influencer pour toute leur vie. Voilà, les parents étaient un petit peu moins contents. Et ça, c'est une réalité dont nous devons tenir compte. Nos actes, quand les gens nous voient vivre nos relations conjugales, quand les gens nous voient vivre nos familles, ça, ça change la façon dont ils vont se projeter dans l'avenir. Notre façon de vivre l'Évangile sera leur mesure pour évaluer l'authenticité de nos paroles. C'est facile pour un homme marié de conseiller l'abstinence sexuelle avant le mariage. C'est moins facile pour lui de ne pas s'emporter lorsque ses enfants le retardent pour aller au culte. Utiliser deux poids deux mesures dans ce genre de contexte nous rend coupables d'hypocrisie. À deux reprises, Jésus demande à ses disciples de veiller et de prier. Marc 13 et Marc 14. Et de nos jours, on entend souvent ce commandement, veiller et prier, servir pour encourager l'Église à une sorte de veille comme une sentinelle contre les atteintes à la bonne morale, contre le déferlement de perversité dans notre société contemporaine. Mais Jésus prononce ces paroles dans un tout autre contexte. Pour Jésus, ces paroles sont prononcées dans le contexte de la lutte contre l'assoupissement des disciples devant la tentation de l'infidélité. L'ennemi le plus fourbe n'est pas celui qui s'affiche, mais celui qui se tapit là où je l'attends le moins, à l'intérieur de mon propre cœur. Une distinction saine entre acceptation et approbation nous libère pour démontrer la grâce sans la frelater avec un compromis envers le péché. C'est une approche qui permet aux parents chrétiens d'un homosexuel de continuer à aimer et à côtoyer leur fils ou leur fille sans que leur geste montre une approbation de son choix de sexualité. De son orientation sexuelle, on va dire. Une église peut accepter d'accompagner des personnes au parcours conjugal compliqué sans que cela signifie une approbation de leurs décisions passées. Et c'est très important lorsqu'on parle de l'accueil en église. Cette distinction nous permet aussi de placer des limites à une relation lorsqu'elle risque de compromettre un devoir prioritaire, comme celui d'un parent envers leurs enfants ou d'un pasteur envers ses paroissiens. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé il y a quelques années. Donc, je venais de sortir un petit livre dans la série Pasteur dans la poche autour de la vision de la sexualité dans l'Église. Quand foi et sexualité sont en conflit, ça s'appelle. Je parle aussi du sexisme dans l'Église, par exemple. Je parle de tout ce qui a rapport à la sexualité, mais à l'intérieur de nos églises évangéliques. Ce n'est pas du tout l'autre que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de sexualité. Et cet ami me parlait d'une amie d'enfance à elle, qui avait fondé une famille. Hein, donc, elle avait des enfants. Toutes les deux, elles avaient pas mal d'enfants ensemble. Et ces deux familles avaient l'habitude de passer Noël ensemble. Depuis des années et des années, c'était la tradition. À Noël, les deux familles se retrouvaient et passaient Noël ensemble. Et un jour, son amie d'enfance lui annonce qu'elle se séparait de son mari, déjà gros choc, et qu'elle quittait son mari pour se mettre en ménage avec une autre femme. Alors, déjà, c'était compliqué. Je l'aime, j'aime mon ami, je veux préserver cette relation, je veux construire la relation, la consolider. C'est pas parce qu'elle a fait quelque chose dont je désapprouve que je ne l'aime plus. Le problème a été encore exacerbé lorsque cet ami lui a dit et pour Noël prochain, je ne viendrai plus avec Jean-Philippe, mais je viendrai avec Véronique. Il n'y a pas de Véronique ici. Et là, elle est venue me voir. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que... Moi, j'aime cet ami, et cet ami est en train de me dire, oui, il faut... Nous sommes amis, donc tu vas m'accepter tel que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de discours? Alors, le choix a été compliqué. J'ai fait attention à ne pas lui dire « Tu devrais faire ceci ou tu devrais faire ça. » C'est peut-être botté en touche. Mais je fais toujours la même chose dans ce genre de situation. Je dis « Écoute, envisage de ce que tu pourrais gagner ou perdre en disant oui, et envisage ce que tu pourrais gagner ou perdre en disant non. Réfléchis aux conséquences des deux choix et décide là où il y aura le moins de dégâts. L'éthique chrétienne, c'est ça. C'est évaluer le pour et le contre des différentes positions. Et ensuite, très souvent, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de réponse claire, nette, précise et parfaite, évaluer, choisir l'option où il y aura le moins de dégâts, le moindre mal. C'est ce que les Israélites ont fait lorsque les Gabaonites les ont dupés. Vous connaissez l'histoire? Les Gabaonites viennent en disant, voilà, nos souliers sont usés. Enfin, les Gabaonites, c'était une peuplade voisine et les Israélites devaient conquérir leur pays. Et donc, les Gabaonites, ayant peur, sont venus, se sont habillés avec des vêtements usés, des souliers usés, du pain moisi. Ils ont fait croire aux Israélites qu'ils venaient de très loin et qu'ils venaient rendre hommage, enfin, qu'ils venaient dire, voilà, faites un traité de paix avec nous parce que Dieu, votre Dieu est puissant. Les Israélites n'ont pas consulté l'Éternel, nous dit la Bible, et ils ont établi un pacte avec les Gabaonites. Et le lendemain, ils se rendent compte qu'ils se sont fait duper. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils obéissent au Seigneur et vont conquérir le pays des Gabaonites? Ou est-ce qu'ils obéissent au Seigneur en respectant le serment qu'ils viennent d'établir avec les Gabaonites? Ça, c'est un cas de réflexion éthique typique qui peut être transposé dans toutes sortes de situations de nos jours. Les Israélites, il n'y avait plus de solution parfaite. Il n'y avait plus de manière de régler cette situation de manière bien propre et nette. Et dans le domaine de l'éthique, de nos choix éthiques aujourd'hui, c'est très souvent le cas. Alors les Israélites ont fait le choix du moindre mal. Ils ont choisi de respecter leur serment, leur promesse à l'égard des Gabaonites. L'histoire ne s'arrête pas là, mais quelques temps plus tard, le roi Saül a essayé de massacrer les Gabaonites, et Dieu lui en a voulu, parce que là, il était en train de rompre le serment qu'ils avaient pris. Donc, montrant que Dieu approuvait ce choix du moindre mal que nous devons très souvent choisir. Et donc, avec cet ami, j'ai dit, voilà, tu n'aurais pas approuvé. Si elle t'avait dit qu'elle avait quitté son mari pour un autre homme, ça t'aurait déjà posé des problèmes. Tu lui aurais dit, tu lui aurais pas dit, de toute façon, c'est ton choix, c'est ta vie, c'est ton épanouissement qui compte. Voilà. C'est simplement parce que c'est une autre femme, ça ne veut pas dire que c'est forcément pire comme culpabilité. Tu n'aurais pas non plus accepté qu'elle le fasse avec un autre homme. Tu n'aurais pas dit, c'est bien, ma belle, continue. Donc, son discours « tu devrais m'accepter tel que je suis » est une atteinte à ton amitié pour elle. Tu ne vas pas forcément... Ton ami est en train de dire « accueille-moi, si tu m'accueilles, si tu m'aimes, tu vas donc m'approuver aussi. » Et là, il y a une limite très claire. Nous ne devons pas être, en tant que chrétiens, pris en otage. Nous pouvons aimer sans approuver. Et les personnes que nous servons, que nous accueillons, ne doivent pas avoir cette possibilité, ne devraient pas nous prendre en otage en disant « Si tu m'aimes, si tu m'accueilles, alors tu vas X, Y, Z, tu vas m'approuver. » Le problème, c'est que les chrétiens, en tant que chrétiens, nous avons perdu l'habitude d'aimer sans approuver. Nous vivons dans une société qui ne sait plus dire à quelqu'un « Je t'aime ». Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire, ou je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons relativement facilement, enfin, il faut faire du travail sur soi, mais relativement facilement cultiver dans nos églises, apprendre à dire à l'autre, voilà, je t'aime, passer du temps avec eux, les servir, parler avec eux. Mais ça ne veut pas dire que j'approuve. Je vais m'arrêter là et je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez, sur lesquelles vous aimeriez que je revienne? Oui.
Ce que tu dis au sujet de l'homosexualité, c'est vrai pour plein d'autres choses. Par exemple, j'ai mon frère, ma soeur, qui vivent en concubinage, sans être homosexuel. Est-ce que je les accepte sous mon toit? Enfin, ça revient un petit peu au même. Et juste pour commenter ce que tu dis, en tant que maman, par exemple, j'ai vraiment appris à dire à mes enfants, je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Toi, je t'aimerai toujours. Mes enfants, ils savent que l'amour que je leur porte est totalement inconditionnel, comme celui de Dieu. Mais je leur dirais ça, non. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Depuis tout petit, on leur dit ça, d'ailleurs. On dit, non, ne fais pas telle chose, mais ça ne nous empêche pas de les aimer. Donc, oui, voilà. Moi, c'est un petit peu ça, ma question. Mais je me suis parfois posé cette question. Ça, l'occasion n'est jamais arrivée qu'ils viennent, mais je me suis... me pose la question si ça arrivait, est-ce que j'accepte ça ou pas?
C'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la seule façon de... On ne va pas régler ce problème, mais on peut choisir ce qu'on va faire en fonction de ce qu'on risque de perdre ou de gagner avec un choix ou avec l'autre. La première fois que ce problème m'a été présenté, c'était... une personne qui suivait un atelier que j'animais autour de cette question, qui me dit, voilà, mon frère est homosexuel, il vit en couple avec un homme depuis un long temps, et ils aimeraient bien venir passer le week-end chez moi, ils avaient une activité qu'ils voulaient suivre. Est-ce que je leur donne deux chambres séparées ou pas? Est-ce que je les laisse dans la même chambre? Donc, je dis, voilà, qu'est-ce que tu vas gagner dans ta relation avec eux? Quel enrichissement est-ce que ta relation avec ton frère va avoir? Est-ce que tu vas les rapprocher de l'évangile ou les éloigner de l'évangile en leur disant, voilà, vous avez vos chambres séparées chez moi, ou en acceptant qu'ils partagent la même chambre? C'est le genre de situation que tout parent d'enfant qui a choisi de vivre en concubinage, par exemple, doit prendre. Est-ce que je donne à mon fils et ma fille, à mon fils et sa copine qui ne sont pas chrétiens, Ça fait 2 ans qu'ils vivent en concubinage, on va dire. Est-ce que quand je les accueille à la maison, est-ce qu'on va leur donner des chambres séparées ou est-ce qu'on va accepter qu'ils dorment dans la même chambre? C'est le genre de question éthique que beaucoup, beaucoup de chrétiens, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de pasteurs doivent prendre aussi, je veux dire, dans une église. Moi, je me souviens toujours du jour où je participais à une équipe pastorale et on avait un couple donc, qui vivait ensemble, ils n'étaient pas mariés. Le papa avait reçu la garde de la petite fille. Parce que la maman ne s'occupait pas de sa fille convenablement. Et donc les services sociaux avaient donné la garde de la fille au papa parce qu'il était en concubinage avec une femme, parce qu'il y avait une femme dans sa vie, parce qu'il était en couple. Et donc ils sont venus à l'église, ils sont convertis, demandent de baptême et tout le reste. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas se marier parce que le divorce n'était pas réglé chez l'un. La petite fille s'est mise à prendre plaisir à venir à l'église, elle s'est fait des copines à l'église, elle avait envie de venir à l'église, on sentait un enthousiasme chez elle dans l'église. Si en tant qu'équipe pastorale, on avait, par exemple, on avait dit à ce couple, écoutez, vous n'êtes pas mariés, en plus, monsieur, son divorce n'est pas finalisé, on ne peut pas accepter que vous viviez ensemble, eh bien, s'ils s'étaient séparés, ce couple, la petite aurait été enlevée et placée par les services sociaux. Une sorte de dilemme éthique absolument impossible à régler de manière propre. Et voilà, on a fait le choix du moindre mal dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que très souvent, dans toutes sortes de domaines, c'est pas seulement le domaine de la sexualité, ça peut être aussi dans d'autres domaines d'éthique concernant l'argent, les choix professionnels et tout, il y a des situations où nous devons peser le pour et le contre et choisir le moindre mal. Une autre remarque, une question? Ah oui, il y en a plusieurs. Il y en a 3 là qui en même temps. Donc, bon, Anne-Marie, vas-y.
Une question qui s'est posée il y a quelque temps au niveau de l'Église, du Conseil, c'est le fait d'accepter un membre de l'Église, enfin, quelqu'un qui devient membre de l'Église alors qu'il vit en concubinage. Est-ce que si on fait le choix d'effectivement l'accepter, on va juste. C'est qu'on approuve.
Ça, c'est difficile, oui. Alors, les uns vont dire non, les autres vont dire oui.
Moi, je dis oui.
Non, non, les avis sont divergents. Et je pense que sur ce genre de situation, avec ce genre de situation, il nous faut regarder des chrétiens qui ne vont pas parvenir à la même conclusion que nous, sans les condamner. Parce que les choix éthiques dans la vie, c'est comme un curseur. J'utilise souvent cette image. C'est comme un curseur qu'on va déplacer le long d'une ligne horizontale. Il y a le point à ne pas dépasser, les deux extrémités. C'est une acceptation totale, ouais, tout va bien, on est tous contents. Pourquoi ? De toute façon, il faut pas juger. Hein ? Et puis de l'autre côté, ah oui, mais Dieu dit, mais la Bible dit, mais le péché, c'est le péché, il faut garder cette norme. Et puis, entre les deux, il y a ce curseur dans ce genre de situation. Une conjugalité sans le mariage, avec peut-être une vraie foi chrétienne, une repentance à l'amour du Seigneur, un désir de servir l'Église. Certains vont dire, oui, mais règle d'abord ta conjugalité, ensuite tu serviras Dieu. D'autres ouvriront les bras tout de suite. Et je dirais que Jésus, ce qui l'intéresse, c'est pas qu'on arrive à trouver le point absolu qui va être... Ouais, le curseur pour tous les évangéliques devrait être là. Non, c'est impossible. Ce qui intéresse Jésus, si vous lisez Jean 17, les priorités qu'il donne à ses disciples dans la prière qu'il adresse au Père, la prière sacerdotale, les priorités qu'il indique à ses disciples, c'est pas la justesse morale, doctrinale, c'est qu'on apprenne à se regarder les uns les autres et à s'aimer, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Dans ce genre de situation, ce que j'ai dit tout à l'heure s'applique. Qu'est-ce que l'Église risque de perdre en disant « oui, on t'accepte en tant que membre » et quels sont les risques encourus et d'autre part, qu'est-ce qu'on gagnerait en termes de manifestation de la grâce, en termes d'inclusion de cette personne qui a donné sa vie à Jésus? Je vais, dans la situation que je vous décrivais tout à l'heure, qui était une situation morale, éthique, impossible à régler de manière claire et nette, nous avons fait le choix de dire à ce couple, le baptême et l'inclusion dans l'Église, oui, à deux conditions. Vous cheminez avec nous et on vous accompagnera vers une situation conjugale en règle. On n'exige pas qu'elle soit réglée demain, mais il faut vous ouvrir, on vous demande de vous ouvrir à ce que Dieu intervienne et vous permette de régler votre conjugalité. Et la deuxième condition, c'était, bon, madame, la dame dans la question, dans l'histoire, avait une relation absolument abominable avec son père, à qui elle refusait totalement de pardonner. Bon, il y avait des abus terribles dans son enfance. Et elle dit, de toute façon, ne me demandez jamais de me marier parce que j'ai vu mon père avec ma mère, j'ai vu mes premiers maris, elle avait déjà été mariée. Pas question pour moi de me marier un jour et pas question de pardonner. Voilà, on va t'accompagner dans ta démarche de... Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas question de pardonner à mon père, pas question de me marier. Et donc, du moment que ce couple a accepté de cheminer avec nous vers une meilleure situation, du moment que, dans un sens, c'était pour eux... le témoignage de « oui, on laisse Dieu transformer nos vies ». Si quelqu'un dit « je viens, j'aime le Seigneur, mais ma vie, je refuse de changer quoi que ce soit », mais c'est quoi ça comme attitude de conversion? Ce n'est pas une conversion, ça, c'est pas une vie de disciple. La vie de disciple implique qu'on laisse Dieu transformer, changer. Peut-être il faut du temps. C'est le choix que nous avons fait.
Il y a la dimension personnelle de ce couple, voilà. Mais il y a aussi la dimension d'Église.
Absolument.
Il y a l'exemple que cela peut donner aux jeunes en disant bah, qu'on accepte comme membre quelqu'un qui vit en concubinage, oui, allons-y.
Oui, exactement. Ah oui, et ça...
C'est compris comme une approbation.
C'est compris comme une approbation.
Sauf si c'est clairement communiqué.
Il faut le communiquer à l'Église.
Oui, oui. Alors, et aux jeunes. C'est pas si difficile que ça. Surtout avec des personnes qui ont la bonne attitude. Oui, ma conjugalité n'est pas idéale. Je connais pas cette situation précise, mais quelqu'un qui viendrait en disant, pour moi, il y a une énorme différence entre l'attitude d'un conseil d'église qui, envers quelqu'un qui vient en disant, je viens en concubinage, et puis c'est comme ça, mais j'aime le Seigneur, donc vous allez m'accepter comme membre de l'église. Et quelqu'un qui vient en disant, j'aimerais être membre de l'église, je sais que ma conjugalité n'est pas idéale, j'aimerais bien qu'elle change, pour le moment elle peut pas. Est-ce que vous m'acceptez quand même? Dans le premier cas, l'Église va dire, attends, c'est quoi comme attitude envers le Seigneur, ça? Dans le deuxième cas, je vois une ouverture possible. Et ça sera au cas par cas. Je pense à un autre couple qui nous avait demandé, c'était un couple, là encore, avec une conjugalité compliquée, qui nous avait demandé de les marier, de bénir leur mariage. Et ils avaient tous les deux déjà une conjugalité compliquée. Ils avaient déjà, ils avaient au moins la cinquantaine, sinon la soixantaine. Et le conseil a fait le choix, vu que c'était un peu compliqué, a fait le choix de leur dire, bon, ok, on envisage ça avec vous, on va vous faire une préparation au mariage. Je dis, quoi ? Préparation au mariage ? Mais vous vous prenez pour qui ? Évidemment, on n'a pas béni leur mariage. Ils sont allés trouver un pasteur qui n'en avait rien à faire, qui était prêt à dire les mots et prendre le chèque. C'est l'attitude des personnes y est pour beaucoup. Deux personnes dans exactement la même situation conjugale sur papier peuvent avoir des attitudes tellement différentes envers l'Église que le choix est fait. Alors moi, je ne connais pas cette situation particulière, mais tout cela va rentrer en ligne de compte. Alors, il y avait une autre question derrière.
Oui, tu parlais dans l'exemple de Sandra.
Oui.
Vous avez fait le choix de ne pas l'intégrer dans votre vie de...
Oui.
On comprend d'après ce que tu dis qu'il y a autrement de la faire rentrer dans l'Église. Qu'est-ce qu'il en est quand le lieu est à la fois l'Église et le foyer, comme un groupe de maison, un groupe d'évangélisation
Là encore, je n'ai pas de réponse, hein, ce sera au cas par cas, ça dépendra des personnes dans ce groupe. En fait, Sandra, son cheminement de foi s'est fait extérieurement à l'Église, sauf, en fait, l'histoire de Sandra est très belle, parce que c'était quelqu'un qui avait été tellement abîmé par la vie que un jour, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma femme, mais qu'est-ce qui se passerait si Sandra se donnait au Seigneur? Et on s'est dit, ben, heureusement que Dieu, il est au-dessus de tous nos débats éthiques. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passerait si Sandra se donnait au Seigneur. Jamais elle ne deviendra monitrice d'école du dimanche. Il se trouve que Sandra, contre l'avis de son médecin et contre mon avis aussi, a décidé de retourner en Amérique du Sud, dans son pays d'origine, pour renouer avec sa famille. Peut-être qu'elle sentait la fin approcher. Elle est rentrée, alors sa famille l'avait rejetée, ses proches l'avaient rejetée. Elle est rentrée dans son pays d'origine et à l'aéroport, il y avait 50 personnes de sa famille étendue qui l'attendaient avec une grande banderole bienvenue. Donc vraiment, c'était formidable pour elle. Dans l'avion, alors tenez-vous bien, dans l'avion, en rentrant en Amérique du Sud, elle venait d'Argentine, hein, dans l'avion en allant en Argentine, elle était assise à côté de quelqu'un, alors je ne sais pas exactement qui c'était. J'ai entendu cette histoire par personne interposée après. Elle était assise à côté de quelqu'un qui semble avoir été un homme d'affaires américain, chrétien, qui n'a pas eu peur d'elle parce que, je veux dire, c'était quelqu'un qui ne prenait pas très régulièrement ses hormones et parfois sa voix dérapait. Si elle ne faisait pas attention à sa pilosité, ça revenait. Elle était un personnage un peu compliqué. Et cet homme a simplement parlé de sa foi chrétienne. Et elle lui aurait dit quelque chose du genre « Ah, mais j'ai des amis comme vous en France. » Bon, cet homme l'encourage, lui parle de la foi chrétienne et lui dit « Cherchez des chrétiens quand vous arrivez en Argentine. » En Argentine, elle décide qu'il était temps pour elle de renouer avec ce Dieu qui, des gens en France qu'elle connaissait, hein, donc de l'équipe dont nous faisions partie, et puis ce monsieur qu'elle avait rencontré dans l'avion. Alors, évidemment, en Argentine, elle va dans les l'église catholique du coin. Il se trouve qu'elle tombe sur un curé, sur un prêtre qui, au lieu de simplement lui raconter, enfin je sais pas, n'importe quoi, lui dit « Ah ben voilà, vous êtes là pendant 3 semaines, tous les mardis nous avons une étude biblique, revenez et participez à l'étude biblique. » Et donc pendant 3 semaines, elle suit une étude biblique, le prêtre lui donne une Bible en espagnol, avec des feuillets d'études, de questions et de réponses, enfin des questions à laquelle elle devait répondre pour approfondir sa foi. Elle revient en France, moi je ne l'ai pas vue avant son décès, je ne l'ai jamais revue, elle est morte dans les 3 semaines qui ont suivi son retour d'Argentine. Son compagnon, lorsqu'il nous appelle pour nous annoncer qu'elle était morte, les pompes funèbres ont refusé d'habiller le corps, et donc c'est mon épouse qui a dû habiller Sandra, décédée, d'habiller le corps, parce que les pompes funèbres refusaient de toucher, ça se voyait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'histoire. Et donc, son compagnon, dans tout ça, me présente sa Bible en espagnol en me disant « Ça t'intéressera peut-être d'avoir sa Bible, elle a écrit dedans. » Et Sandra avait souligné des versets du genre, enfin dans Jean « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Enfin, toutes sortes de versets. Et donc le jour où j'ai fait ces obsèques, j'ai pu prêcher l'Évangile en disant « Voilà les versets que Sandra nous a laissés. » Et elle aurait dit à son compagnon en rentrant en France, après ce cheminement de foi, « J'ai fait la paix avec Dieu. » Je ne suis pas sûr de ce qu'elle a voulu dire, mais j'ai un petit espoir de la retrouver au ciel. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que lorsque nous cheminons avec des personnes, nous pouvons espérer que Dieu intervienne d'une manière qui nous dépasse totalement. Et nous sommes, comme je l'ai dit hier, juste une étape dans le cheminement d'une histoire qu'il a déjà en cours avec eux. Est-ce que j'ai répondu à la question, à la remarque? Peut-être, reposez-la.
La question, c'était moins sur l'histoire de Sandra que sur la conséquence qui
pour l'église locale. Alors voilà, si je vous ai raconté cette histoire, c'était aussi parce que le chemin...
Par rapport à ton couple, enfin, à ta famille.
Oui, et l'église locale.
Mais, voilà, qu'est-ce qu'il en est quand il y a un mélange entre l'église locale et la famille, ouais.
Alors, dans le cas de Sandra, en fait, son cheminement spirituel s'est fait non seulement hors de notre famille, mais aussi hors de l'église locale, enfin de notre église locale. Elle a participé à ses études bibliques de soirée avec ce prêtre, mais... Donc, ce cas de figure ne correspond pas vraiment. Je n'ai aucune réponse à ce genre de cas de figure parce que dans un groupe de maisons, il y aura tout à fait les capacités d'accueillir quelqu'un qui ne correspond pas aux normes évangéliques ou aux normes habituelles de la société. Et puis d'autres groupes de maisons feront certainement le choix de l'accompagner de manière séparée du groupe. Je ne pense pas qu'on puisse avancer une règle pour ce genre de situation. Ce sera vraiment au cas par cas. Pardon ? Un groupe sans enfants, par exemple, oui. Oui, oui. Oui.
Juste un témoignage. J'ai beaucoup profité ce matin pour peut-être quelque chose qui va paraître anecdotique, mais tu es arrivé à parler de ça sans prononcer deux mots qui sont absolument piégés, qui sont la tolérance et la laïcité. Donc ça fait une heure qu'on parle de gens, etc., etc. Et tu viens à réussir avec l'attirance, l'acceptation, l'approbation, à éviter deux mots dont j'ai vu qu'on va dans le mur, c'est laïcité et tolérance. J'ai une petite explication sur tolérance. C'est l'édit de tolérance en 1562. C'est Catherine de Médicis qui fait ça. Elle arrive d'Italie, et en Italie, tolérare, ça veut dire soutenir. Alors que chez nous, tolérer, ça veut dire tu commences à me fatiguer. Non, mais je suis vraiment sérieux. Et donc, il y a un piège sémantique terrible là dans lequel j'ai été embêté. C'est de parler avec des gens qui ne sont pas de l'Église ou dans l'Église, de deux mots que je déclare être totalement piégés, qui sont la tolérance et la laïcité. Et donc ce matin, je me suis largement enrichi de rejeter ces mots-là à cause de la complexité, de l'ambiguïté et du piège sémantique qu'il représente et attaquer avec d'autres mondes. Voilà, c'était juste un témoignage.
Merci, effectivement. Oui.
Ouais, du coup, moi, ça m'a rappelé beaucoup d'anecdotes. J'aurais pu en citer en d'autres lieux et dates, des séminaires aux tiennes, notamment une famille chrétienne de 6 garçons avec une fille adoptive de 7 ans. Donc, les deux plus jeunes ont eu des problèmes d'abus sexuels de la part d'extérieur de la famille et qui ont fini homosexuels les deux, et le plus jeune qui a fini aussi trans, donc, une personne que je connais bien, comme des cousins. Et du coup, l'homosexualité, pour ceux qui me connaissent un peu plus dans l'intimité, savent que c'est un problème que j'ai eu à gérer dès l'adolescence. Et du coup, j'ai dû faire des choix à un moment donné de dire mes enfants ne verront pas leur. Verront pas mon père, donc leur grand-père, pendant toute une période, parce que pour les préserver. Donc, ça m'a quand même beaucoup touché ce que tu as raconté, parce que j'y suis encore confronté de manière concrète, avec Noël qui approche, tu te souviens. L'histoire de les faire dormir à la maison, les deux dans la même chambre ou non, enfin, ce genre de petits détails vraiment pratico-pratiques. Qui mêle en fait l'émotionnel, l'éthique et la vie pratique.
Exactement, l'émotionnel, l'éthique et la vie pratique. Ouais.
Et je trouve, je me méfie énormément et de plus en plus en vieillissant, en ayant été confronté à tout un tas de situations comme tu peux décrire, de la partie émotionnelle. Vraiment. Et tu vois, le côté SWOT, je fais le rapport entre ce que je gagne, ce que je perds. Eh bien, franchement, je ne suis pas d'accord, tu vois, je te le dis, parce que pour moi, il y a une ligne de conduite que le Seigneur nous en enseigne, qui est l'équilibre entre la justice et l'amour. Et par amour, je dois être transparent avec mon prochain et lui dire que la justice, c'est ça, et l'amour, c'est ça. Et tu vois, quelque part, je n'ai pas envie de renier ce en quoi je crois en ayant... un amour et qui déborde du facteur émotionnel qui fait que je mets de côté pour préserver ma relation avec l'autre parce qu'il y a un enjeu émotionnel, la justice. Et pour moi, c'est vraiment les deux. Et à chaque fois que j'ai eu cette attitude-là, non seulement j'étais en paix avec le Seigneur, mais en plus, j'ai réussi à passer un message à l'autre parce que je l'ai fait avec amour et respect de qui il est. En lui disant, c'est pas le pécheur que je condamne, c'est le péché. Voilà. Et j'aime le pécheur, mais je n'approuve pas ton péché. Et en faisant ça, sans rentrer dans un espèce de compromis de SWOT qui pourrait être complètement parfois alambiqué, en plus déformé par le côté émotionnel, et ben j'ai réussi non seulement à avancer dans ma relation avec le pécheur, et en même temps à préserver mes valeurs.
Alors, si tu as réussi à avancer dans ta relation avec le pécheur, c'est une bonne chose. Et j'ai un défi supplémentaire pour toi, qui est d'accepter qu'un autre chrétien, dans une situation analogue, choisisse différemment de toi. Et je lui lancerai le même défi à lui ou à elle, d'accepter ton choix et ta façon de gérer la situation, comme je te lance le défi d'accepter une autre façon. Je pense que la seule chose que je peux vraiment dire sans aucun doute, c'est que quiconque cherche à placer un absolu de comportement dans ce genre de situation se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude.
Je suis entièrement d'accord.
Voilà.
Voilà, c'est ma façon d'aborder les choses pour préserver les choses. Et voilà, en ayant une énorme dose d'unité, en disant dans la relation, tu es obligé, et l'émotionnel, c'est là que l'émotionnel peut être un. Pour le coup, au lieu d'être un adversaire, peut être un allié. Je veux dire, on en parlait avec Simon juste avant le temps, de dire, moi aussi je suis pêcheur.
Oui.
Et ce qui nous rassemble, en fait, c'est vraiment toutes les scories d'humanité. Quoi.
Oui, exactement, les scories d'humanité. Ouais. Je vais maintenant conclure ce matin, parce qu'il nous faut, on n'a plus que 2 minutes. Il semble clair que dans sa parole, Dieu nous confie un rôle primordial pour conduire nos contemporains à une meilleure compréhension de Christ et de son œuvre. C'est notre but, c'est l'Évangile. Et ça, on ne peut pas le faire convenablement sans l'église locale. Et moi, je suis constamment étonné, dans toutes les complexités des situations que nous avons évoquées, que nous venons d'évoquer à l'instant là, je suis étonné de la manière que Dieu, dont Dieu continue à nous faire confiance, continue à nous utiliser. Regardez dans les évangiles la manière dont il se comporte envers ses disciples. Il choisit, jour après jour, pendant les 3 ans qu'il a vécu avec eux et pendant les 2000 ans qui ont suivi, de collaborer avec des gens faillibles, des gens qui se trompent, plein de scories, pour reprendre ton vocabulaire. Dieu a confiance en nous. Et il l'affirme sans équivoque. Il a confiance en nous lorsque nous avons confiance en lui, lorsque nous dépendons de sa force. Il choisit de faire dépendre l'avancement de son royaume de notre participation. Et certains jours, comme je l'ai dit hier, je me demande pourquoi. En fait, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, venu habiter en nous pour animer l'image du Christ, y est pour beaucoup, bien sûr. Et contrairement à ce que j'ai parfois entendu, et parfois on le chante aussi dans certains chants, nous disposons d'une énorme liberté d'action et de choix quant à la mise en pratique de cette réalité. La question que j'aimerais, avec laquelle je vous laisse dans cette réflexion de ce matin, nous aurons encore, je vous le rappelle, l'occasion de partager cet après-midi, y compris d'avoir un temps de questions et de partage. Jusqu'où doit nous mener l'imitation du Christ dans l'accueil? Et une des réponses à cette question consiste en une distinction saine entre accueil, acceptation et approbation. L'accueil qui invite l'autre à une relation, l'acceptation qui approfondit la relation et donne à l'autre la possibilité d'apprendre à me connaître réellement, et l'approbation qui implique un accord avec les choix et les comportements de la personne. Vraiment que le Seigneur nous aide tous à mettre en pratique, à utiliser tous ces ingrédients pour composer quelque chose qui, au final, un plat qui, au final, sera différent les uns des autres, d'une église à l'autre, et qui nous permettra néanmoins de faire avancer son royaume et l'évangile dans le cœur des gens. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce que nous avons vu ce matin. Merci pour le culte tout à l'heure qui nous a déjà introduit dans ta présence. Merci pour la possibilité que nous avons de continuer à t'adorer en réfléchissant ensemble parfois à des choses qui sont compliquées, difficiles à conclure, difficiles à gérer dans la réalité de notre vie quotidienne. Seigneur, je te prie pour toutes les situations, toutes les histoires, toutes les relations qui sont venues à l'esprit de mes frères et sœurs ici ce matin lorsque nous avons parlé, partagé ensemble. Je te demande que dans chaque situation, dans chaque histoire, tu puisses intervenir de la manière dont toi tu le veux. Empêche-nous de faire des obstacles, de faire obstacle à ce que tu veux faire dans la vie des gens. Et donne-nous tous, Seigneur, d'être placés là, au bon endroit et au bon moment, là où tu nous veux, où tu peux nous utiliser. Amen. Amen.